Bon mardi à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 19, jusqu'à 20h en fait. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver ici pour parler bande dessinée, pour parler 9e art, j'allais dire, pour plonger dans l'univers du 9e art. Je pense que c'est rendu mon chemin redondant d'une introduction à l'autre. Et en fait, frénésie des fêtes, évidemment, avec donc la grande pause, les grandes vacances qui s'en viennent. Frénésie également chez nos amis libraires, qui, je pense, en fait, pour moi, c'est comme le moment d'excitation aujourd'hui, le moment de frénésie de ma journée. Mais pour mes trois amis et libraires, je pense que c'est le moment de calme et de détente. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Émilie Roy-Brière, bonjour à vous trois.
Hello Raymond.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Et bonne détente à vous.
Oui. Oui, on va apprendre.
Nous, on a pris nos pilules avant de venir.
Évidemment, si vous êtes avec moi pour cette dernière, avant la pause des fêtes, d'ailleurs, je le mentionne au passage, c'est parce qu'on a un club de lecture ensemble. Alors, je rappelle évidemment l'approche qu'on se propose à chaque mois. Donc, l'un de nous choisit une thématique et donne le ton avec une première suggestion d'album. Et ensuite, chacun complète la sélection avec un album de son choix qui est rapproché, qui est relié au thème d'une manière ou d'une autre. Et ben pour cette semaine, en fait, c'était moi qui vous infligeais la thématique proposée. Thématique qui, finalement, était un peu moins dense que la dernière fois où j'avais été vers ce type de thème-là. Alors, la thématique, très simplement, récit de deuil et de fin de vie. Alors, pour moi, ça faisait peut-être un peu écho à une thématique qu'on avait déjà abordée au fil des clubs de lecture, donc sur la mort, en fait, et le deuil, au bout du compte. Et on avait trouvé que c'était quand même une thématique assez intéressante par le biais de la BD, de voir un peu comment on abordait dans le contexte de ce club-là, qui est disponible d'ailleurs pour écoute sur lavieenbd.com. Donc, où on explorait un peu les incidences de ce type d'émotion, donc à travers le médium BD, à travers les forces d'évocation, donc avec des albums qui étaient quand même assez distincts dans le style, dans le ton, dans l'esprit. Et pour récits de deuil et de fin de vie, je sais pas, la thématique, c'est un peu venu par moi, peut-être en lien un peu avec des entrevues qu'on a faites. Donc, pour le contexte, le moment où je vous ai lancé cette thématique-là, je venais de finir quelques relectures du Petit Frère en préparation pour l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Louis Tripp, qui est d'ailleurs disponible pour écoute sur lavieenbd.com également. Et dans le fond, je trouvais qu'on avait là une belle mise en scène, dans le fond, du deuil, et tout particulièrement toutes les pages, toutes les sections où on recrée, au bout du compte, l'ambiance des funérailles, l'ambiance d'une veille mortuaire. Et je trouvais qu'il y avait pratiquement quelque chose de photoréaliste dans l'approche, dans la lenteur que s'offrait Jean-Louis Tripp. De mon côté, j'étais tombé aussi sur d'autres albums au fil des bibliothèques où une relecture en amène une autre et une autre et une autre, que ce soit pas la Québec ou le reste. Je suis tombé sur l'album que j'ai choisi pour donner le ton un peu à tout ça, dont j'avais un peu parlé ici à La Vie en BD, qui est un de mes coups de cœur d'ailleurs pour l'année 2020. J'en reparlerai en début d'année prochaine également. Mais Si les étoiles s'éteignent à l'aube, de Vincent Turan et Richard Wagamese, donc qui est ma sélection pour ce mois-ci. Je vais en parler tout à l'heure également. Les autres titres dont on va parler, qui sont vos choix, chers collègues, donc il y a Malgré tout de Jordi Lafèbre, c'est chez Dargo, La mort de Staline de Fabienne Nury et Thierry Robin chez Dargo également, et de même Neil Gaiman avec Death, donc de l'univers du Sandman, donc chez DC Comics. Et donc, je le disais de mon côté, je vais introduire peut-être mon album, puisqu'on donne le ton. J'ai déjà un peu commencé l'élément, donc Les étoiles s'éteignent à l'aube. Pour moi, en fait, on se retrouvait, c'est pour ça que je me disais, on va introduire la notion de deuil, mais également la notion de fin de vie, parce qu'au bout du compte, on chemine vers la fin de quelque chose. Parfois, cette fin-là, elle est très proche, on la sait, on la connaît. Parfois, elle est beaucoup plus éloignée et on ne la voit pas nécessairement venir. C'est ce qu'on va découvrir aussi avec les sélections. Mais pour Les étoiles s'éteignent à l'aube, on se retrouve avec quelqu'un qui sait que sa fin est proche et qui a défini le rituel par lequel il souhaite que la fin arrive et nécessairement que le deuil se fasse un peu de son vivant, donc on puisse fermer des pages d'un livre au bout du compte qui a été laissé ouvert de façon malheureuse d'ailleurs. Donc l'homme en question, donc c'est un ivrogne, c'est un type peu recommandable, peu sympathique au bout du compte, et on découvre au fil de l'album qui évidemment tout en zone de gris, donc à la fois qu'on le plaint et à la fois qu'on le critique et qu'on le juge au bout du compte. Et lui a eu un fils qui a donné à quelqu'un d'autre pour qu'il soit élevé, pour qu'il grandisse, mais évidemment en cours de route il va comprendre que son père biologique est quelqu'un d'autre et il va avoir une relation, je dirais, à la fois une absence de relation ou une relation tumultueuse avec lui. Et ce père biologique va demander, dans le fond, à son fils de l'accompagner pour une dernière chevauchée pour que lui puisse mourir en voyant les montagnes qui sont celles de son peuple. Donc, on parle d'un roman de Richard Wagamese qui nous amène en Colombie-Britannique. Donc, on est dans les récits et les traditions des Premières Nations aussi de cette région. Et dans le fond, on va suivre cette chevauchée d'une soixantaine de jours environ, donc sous un décor automnal absolument faste et magnifique. Et on va voir, je dirais pas une réconciliation, mais plus qu'une fermeture de livre, une acceptation. Donc un processus au bout du compte de deuil, un processus de fin de vie qu'on découvre avec des personnages que j'ai trouvé très très riches. Bref, j'étais bien content de vous le partager et de vous le faire lire. Et je disais d'entrée de jeu, et je pense que je vole un peu les punchs, Edouard, mais je pense qu'on a interprété la notion de fin de vie de façon très, très variée. Émilie Roy-Brière, de ton côté, avec la sélection de Malgré tout, ben, tu nous amènes au bout du compte dans la vie, globalement, presque.
Mais dans Malgré tout, c'est plus un début. Est-ce qu'on m'entend?
Oui, normalement, oui.
Dans Malgré tout, c'est plutôt un début. La mort serait plus métaphorique. En fait, c'est plutôt la fin de la vie active. On va avoir deux personnages qui viennent d'une même ville. C'est une ville maritime qui est à peu près jamais nommée, je crois. Puis, on a deux personnages qui vont se rencontrer, se perdre de vue, rester en contact toute leur vie. Ils vont jamais avoir de relation ensemble, mais c'est... L'un et l'autre, quand ils tombent à la retraite, ils vont finir par, finalement, avoir la possibilité de faire quelque chose et de vivre cette relation qui n'a jamais eu lieu. Puis ce que j'aimais beaucoup dans Malgré tout, c'est que l'histoire est racontée à rebours. Donc on va avoir 20 chapitres qui se succèdent, mais l'histoire se termine avec leur première rencontre et commence avec cette nouvelle d'une nouvelle vie. Donc, c'est plus métaphorique, finalement.
Alors, à travers donc l'existence globalement, mort, fin de vie métaphorique, et on a le littéral aussi avec Marco Duchesne. Je pense que c'est toi qui a choisi Death de Neil Gaiman, donc où on met littéralement en scène la mort.
Tout à fait. Alors, Neil Gaiman a créé cette magnifique série qui s'appelle Sandman, un univers dans lequel le marchand de sable, Morpheus, est le personnage principal. Il est le roi du royaume des rêves. Alors, tout au long de cette série-là, effectivement, il fait intervenir ce personnage-là dans différents aspects de vie de personnages humains de la planète. Mais dans cet univers-là, Sandman, Morpheus, a 7 frères et sœurs, dont la mort. Dead, appelé aussi Didi. Dead est représenté comme une jeune ado gothique, avec les cheveux noirs et un peu maquillée à les yeux noirs. Et cette jeune ado-là intervient dans la série Sandman de temps en temps. Mais Neil Gaiman, à un moment donné, a fait un ou deux récits où elle est le personnage principal. Celui que je vous ai suggéré, c'est Dead, the High Cost of Living, le prix le plus cher de la vie. Où là, Dead, dans cette petite histoire-là, va prendre vie pendant une journée. Alors, selon ton thème, effectivement, à la fin de la journée, Dead va redevenir la mort, c'est-à-dire qu'elle va mourir aussi. Donc, c'est le récit d'une mort annoncée aussi. Alors, et là-dessus, c'est que elle va commencer sa journée dans un dépotoir où elle va rencontrer un jeune ado qui, lui, veut en finir avec la vie. Alors, c'est tous ces récits de cette journée-là qui va faire en sorte qu'on va voir comment c'est quoi le prix le plus cher de la vie.
Et la dernière sélection du club commence littéralement avec la mort et les journées et semaines qui s'en suivent avec la mort de Staline, qui a aussi connu une adaptation cinématographique par ailleurs.
En effet... sans grande surprise, hein, pour ceux qui me connaissent, ceux qui suivent un peu, bon, mes chroniques avec toi, hein, Raymond, Fabien Nury, qui a toujours été un de mes scénaristes de prédilection et qui nous a livré avec la mort de Staline, encore une fois, splendide série, splendide BD. Compte tenu du thème, j'avais envie justement d'explorer un peu l'impact, bon, parce que quand on parle hein, de fin de vie, là, justement, la fin de vie, c'est la mort de Joseph Staline, bien sûr, hein, le dictateur hein, de russe. Je veux dire, la mort, justement, d'un personnage comme ça qui a une place aussi importante dans une société, dans un pays, dans l'histoire, eh bien, ça vient avec tout son... tous ces impacts, tous ces changements, tous ces bouleversements, et c'est un peu dans le fond, tu sais, ce que va explorer la BD. Donc dès le départ, Staline meurt, mais bien sûr, compte tenu du régime, compte tenu de la dictature, compte tenu des purges, même les plus proches collaborateurs de Staline n'étaient jamais à l'abri, et c'est ce qu'on découvre en fait très 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 très, très tôt hein, dans l'histoire. Et là, ce sera vraiment la course en fait contre la montre hein, à savoir qui de notamment bon Lavrentiy Beria ou bon Khrouchtchev ou bon tout Molotov ou bon tous ces éminences grises en fait qui gravitent autour de Staline, qui va être capable de d'agripper le pouvoir et donc de tirer profit, en quelque sorte, de cette mort qui a comme ça un impact gigantesque sur toute une nation.
Alors, c'est les quatre titres qui vont être l'objet des discussions au fil des prochaines 45 minutes environ. Et ben, c'est le moment dans l'émission, et là, il est face à moi, ici, dans le studio. Alors, je le regarde droit dans les yeux, presque lascivement, et je lui demande, ben, par quoi commence-t-on, Édouard Tremblay?
Eh bien, fait est constaté hein, que, oui, la fin, on parle de fin de vie, on parle de deuil, on parle de mort, mais à chaque fois, j'ai l'impression que, c'est pas si c'est mon interprétation, la façon dont j'ai lu, mais à chaque fois que cette fin-là est une ouverture, est un nouveau départ, est quelque chose qui nous amène... À une modification, à une altération de notre relation au passé, essentiellement. Et c'est pourquoi, ben, en fait, je commencerai par la fin qui vient conclure le passé, en quelque sorte, ce qui est le cas avec cette extraordinaire BD qui est Malgré tout. Que je dois d'abord le dire le plus candidement du monde, je suis tellement, tellement, tellement tombé sous le charme de la relation entre ces deux personnages-là, la finesse et la subtilité avec laquelle ça va être narré. Oui, bien sûr, avec le principe de l'histoire à rebours qui est juste génial, mais... Au-delà de ça, par tout le symbolisme, par toutes les justement les petits clins d'œil qu'on va se renvoyer comme ça au bout de l'histoire, et par ces deux personnalités uber attachantes, mais tellement, tellement, tellement extraordinaires. Je veux dire, j'ai l'air flabbergasté, ben c'est parce que je le suis. Écoutez, je suis complètement été renversé par cette lecture-là.
En fait, je te rejoins sur le renversement. En fait, je veux dire, j'avais complètement passé outre cette bande dessinée-là à sa sortie. Donc, merci, Émilie, de me l'avoir ramenée. Et je me dis, Jordi Lefebvre, en fait, on l'a surtout vu avec Zidrou. En fait, si je me trompe pas, c'était sa première BD en tant qu'auteur complet. Et donc, c'est donné, à mon sens, deux gros défis. Un défi scénaristique, dans le fond, de bâtir une histoire à rebours, dans lequel, dans le fond, le lecteur est constamment en perte de repères. Au bout du compte, où on essaie de comprendre, où on découvre, en fait, des nouvelles informations. Donc, la séquence qui arrive subséquemment complète des éléments qu'on a vus précédemment. Donc, on est toujours en déséquilibre, ce qui fait qu'on est toujours aussi très actif dans la lecture. C'est un bon pari, mais il faut réussir à le tenir de bout en bout, parce que sinon, ça pourrait être cacophonique, un peu comme BD. Et on réussit à garder ce fil-là. Donc, ça, à mon sens, c'était le premier grand défi. Et le deuxième, mais tu l'as dit, Édouard, en fait, on a deux personnages qui sont uber sympathiques, uber attachant, donc un libraire intellectuel marin complètement un peu sauté mais tellement physicien et une femme qui est mère qui est complètement emportée par le travail et qui essaie de faire avancer sa ville un peu tout en n'échappant pas trop sa vie de famille et au bout du compte on découvre leur histoire, mais le défi là-dedans c'était de créer des personnages qui étaient charismatiques, qui étaient attachants, et au bout du compte c'est par leur personnalité, par leur nature profonde qu'on découvre au fil du récit qu'on se raccroche dans justement cette dynamique de déséquilibre. Donc il fallait que ces deux personnages-là fonctionnent pour que l'histoire fonctionne et que la structure fonctionne.
Et c'est d'une ambition, c'est c'est grandiose comme ambition, là, c'est-à-dire essayer de raconter de cette façon-là, et ça fonctionne, mais tu sais, c'est commencer par la fin. On se rappelle tous à certains films, certains défis que s'étaient donné des cinéastes comme Nolan avec Memento. Commencer par la fin, tu sais, commencer par il meurt au début, là. Et mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les questions que le lecteur peut se poser après le premier chapitre, qui est en fait le chapitre 19. On se pose les questions. Elle a un diagnostic de quelque chose parce qu'elle s'évanouit. Lui, il vient la rejoindre et tout. Puis là, le lecteur se pose des questions. C'est comme fini. Je veux dire, surtout que ça finit avec un fondu au noir, là, avec une case noire. Tu sais, c'est fini. Et là, le chapitre 18 qui commence et qui est après. Et là, on répond à certaines de tes questions. On s'en pose d'autres. Ah oui, OK. Et tout s'ensuit à force de... Et parfois, chaque chapitre, le recul dans le temps est pas si éloigné que ça. Et pas si éloigné que ça. Et on répond aux questions assez rapidement, mais il s'en pose d'autres. Et on recule encore comme ça. Et pour avoir regardé... Là, j'ai pas tout décortiqué le découpage de la BD comme tel, mais les premières pages sont découpées comme les dernières pages, exactement pareil.
Oui, ben les deux premières cases, on a les deux personnages, ouais, qui se regardent, ils sont représentés de face, ça prend vraiment beaucoup de place dans la page, puis les deux dernières, qui est leur première rencontre, qui est ce coup de foudre au premier coup d'œil, ben c'est exactement
c'est
le
découpé
même
pareil. Il faudrait voir comment tout ça se rejoint au bout, là, mais
Oui, en fait, c'est qu'on voit qu'il a vraiment pensé à une structure assez détaillée, assez complète au final.
Oui, ben moi je l'ai déjà dit en ondes, je peux le répéter, je suis vraiment une plot à scénario, et la lecture de cet album-là est absolument fabuleuse, parce que dans n'importe quel film où les personnages ont une quête à accomplir, c'est « Oh mon Dieu, vont-ils réussir? » Mais dans celui-là, c'est déjà accompli. On a le projet de la mairesse qui est de construire un pont dans sa ville, qui va l'occuper pendant une très grande partie de sa vie. Dans le premier chapitre qu'on nous présente, qui est le 20e, le pont est déjà construit, ils vont prendre une marche. « Ah ouais, donc c'est ça, le pont que t'as fait construire dans ta ville. » Elle fait « Ah oui, ça a pas été facile. » Donc, on sait que le pont va se faire, mais on réussit quand même à avoir des surprises. Il y a une vieille dame qui veut pas déménager. Il faut mettre un pilier dans le mauvais quartier. Puis là, l'autre est à l'autre bout du monde, il est au téléphone, il dit « Ben voyons, vous allez pas détruire ma maison, tu sais. » Donc, ça nous réserve quand même des surprises, même si on sait que l'objectif est accompli, on le sait dès le départ.
Et puis ça dépend, en fait, ça revient à mon sens justement au charme des personnages. En fond, on se demande c'est quoi leur histoire, parce que on découvre la conclusion au départ, mais comme il y a une dynamique, un charisme, quelque chose qui ressort de ça, on a envie de savoir qu'est-ce qui est venu avant, on a envie de connaître leur histoire, et plus on découvre leur histoire, plus on a toujours la question, oui, mais pourquoi, puis finalement ça nous enchaîne, et c'est très difficile de la mettre de côté, cette BD-là, finalement, même si l'enjeu, ben au bout du compte, il a été révélé d'entrée de jeu, mais l'univers est tellement agréable, tellement charmant, tellement positif aussi, parce que je veux dire, j'avais crainte un peu de nous infliger des lectures lourdes et tristes, mais il y a tellement une belle légèreté et avec des couleurs qui sont elles aussi dans le fond lumineuses au bout du compte, donc dans ce récit là
et sans amertume aussi, parce qu'il faut, tu sais, il y a quand même le personnage féminin qui est quand même déjà marié, qui a une famille, et qui a fait sa vie avec ça, et donc tu sais, on aurait pu, ah ouais, ben là, tu sais, relation secrète, adultère, non, il y a une poésie là-dedans, il y a une retenue, il y a une pudeur qui, je pense aussi, donne cette force là justement à ces deux êtres là qui se sont cherchés, qui ont peut-être juste, et c'est pour ça que je disais que la fin dans le fond est un peu un commencement, parce que dans le fond c'est juste d'attendre le bon moment, le moment propice, puis au point où on se demande, tu sais, je pense pas que ce couple-là aurait pu coller à n'importe quelle autre époque, parce que une bien trop ancrée dans ses projets, l'autre ben trop vagabond, ben trop rêveur dans sa thèse de doctorat qu'il compose en mer, tu sais, je veux dire, ce couple-là aurait comme, je sais pas, aurait comme pas eu d'allure autrement, tu sais, il fallait que ce cheminement-là soit fait et qu'on en arrive à ce début. Et c'est pour ça aussi que je trouve grandiose l'idée de compte à rebours, parce que justement, comme je disais, c'est un nouveau départ. On débute avec cette relation-là qui s'ouvre comme ça et qu'on le sait pas, parce que c'est pas ça qu'on raconte, mais on présuppose qu'il va finir par déboucher sur un paquet de trucs intéressants pour eux et tout un nouveau chapitre de leur vie, même si, bon, sont rendus des personnes âgées. Ben, tu sais, c'est un peu comme on avait aussi, c'était dans quoi, les petits ruisseaux de Rabaté aussi, où c'était ça, où on disait que la vie, dans le fond, le cœur, les moins, tout ça, ben, ça meurt quand on décide de le laisser mourir.
Oui, puis en même temps, on a tous une vie à vivre, et des fois, il y a des circonstances où il y a un amour qui semble accessible ou qui semble intéressant, mais qui finalement n'est pas nécessairement ce qu'on doit vivre à ce moment-là, parce que il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place, et c'est une relation, clairement, comme tu dis, où l'un se serait oublié derrière les projets de l'autre, parce que c'est deux personnes qui étaient trop visionnaires, si on peut dire, par rapport à ce qu'ils voulaient faire, et y en a un des deux qui aurait dû à s'arrêter au bout du compte, et on comprend pourquoi en lisant ça au bout du compte, on comprend pourquoi ils ont été chacun au bout de ce qu'ils avaient à vivre séparément avant d'être prêts à vivre ensemble un parcours qui nous est pas révélé dans le livre, puisqu'on commence avec cette fin-là qui est le début de quelque chose.
Mais en fait, le parcours, il est à rebours. Le parcours, c'est de se rencontrer une première fois. Mm-hmm. Alors, évidemment que ça commence par ils sont heureux, puis tu sais, personne n'a de regrets, de remords, personne est amer de toute une vie sans se voir. Ben, ils se voient de temps en temps, ils ont une espèce de communication quand même, là. Mais personne, alors, ils se rencontrent, ce premier chapitre qui est la fin, ben, c'est le bonheur, là. Ils se voient, tu sais, ils commencent. Et le but, ben, c'est la première rencontre. Et là, c'est le voyage va être à rebours dans le passé pour voir les étapes qui les ont amenés là.
Et même si je me trompe pas, pour finir justement avec le premier regard, la dernière histoire est racontée elle-même à rebours. Dans le fond, c'est la seule qui part pas dans une chronologie standard, donc qui est complètement inversée aussi.
C'est vrai.
Dans une séquence entièrement muette aussi, qui nous sort un peu de l'album et qui nous amène un peu dans la magie au bout du compte de ce qu'on a vu. Non, c'est absolument charmant comme BD, sincèrement. Là. Je regrette de l'avoir pas lu l'année passée.
Non, ben, j'avoue que j'abonde dans ce sens-là aussi. Moi, je l'avais vu passer. Je pense même que Marco m'en avait parlé un peu,
ouais,
mais
oui.
Bon, hein, sur le tour, on n'a pas. Et non, j'ai été extrêmement heureux d'avoir découvert ça. Et idem, en fait, avec les étoiles, hein, s'éteint à l'aube de Wagamese. Je connaissais un peu bon Richard Wagamese, notamment par Cheval Indien, dont j'ai vu notamment le film, qui est absolument magnifique. Et je me doutais qu'on allait être justement encore un peu dans les thématiques probablement des Premières Nations, eu égard justement à son propre passé, c'est justement ce qu'il aborde justement dans son œuvre. Encore une fois, quelle poésie dans tout ça. Beaucoup plus tragique, évidemment, beaucoup plus amer à quelque part, de tout ce passé qui se révèle comme ça à la toute fin, du fils qui trouve en fait la vérité sur son père, sur sa mère, sur son passé, alors que il va perdre son père, bon, on comprend qu'au début il a l'air de s'en ficher un peu, son père n'a jamais été vraiment dans sa vie, on comprend qu'il y a eu de l'alcool et beaucoup de problèmes reliés à cet alcool-là, hein, à travers le cheminement de l'un et de l'autre, mais quand même, et c'est, je pense, que ce que j'ai retenu le plus, et ce qui m'a le plus touché, c'est qu'au départ, bon, quand justement le père du jeune homme explique « je veux que tu m'enterres à tel endroit, face au soleil, de telle manière », à la manière d'un guerrier, comme on le comprend. Et son fils lui dit, t'es pas un guerrier. T'sais. Et à la toute fin de l'histoire, je vous le cacherai pas, le père meurt. C'est ça l'histoire. je passe pas voler de punch à personne. Son fils lui dit, t'sais, ta guerre est finie, papa. Et on comprend que c'est lui, ça a été l'alcool qui a été son combat toute sa vie. Son combat, ça a été son ennemi, ça a été lui-même. Et je comprends ça, je respecte ça, parce qu'on a tendance à juger des fois ces gens qui n'arrachent, soit avec la drogue, avec la coke, tout ça. Je veux pas rentrer dans les grandes considérations, là, mais je trouve que ça ramène les pendules à l'heure, que des fois ta guerre c'est contre toi, des fois ton pire ennemi c'est toi, puis faut que tu règles ça un moment donné, là, t'sais.
Ça fonctionne comme un roman d'apprentissage, en fait. Ouais. Tu sais, pour le fils, mais pour le père aussi, parce que, tu sais, ces deux-là se sont jamais parlés ou presque pas, puis ils ont vécu éloignés l'un de l'autre. Et c'est drôle parce que je lis beaucoup de western, mais en bande dessinée aussi, mais le thème de raccompagner quelqu'un pour l'enterrer quelque part, ça revient souvent. Et je me rappelle d'un récit en bande dessinée, un type demandait à sa mort que quelqu'un le ramène son cercueil dans une autre place, ou un film. Undertaker, le premier tome, je pense que c'était ça, là, fallait qu'il charrie. Hein. Et tu sais, c'est comme un roman d'apprentissage, dans le sens que la personne à qui on demande de ramener soit le corps ou soit de l'accompagner, tu sais, pour elle, c'est comme l'amener à participer à quelque chose pour vraiment, là, parce que le père, c'est dans ce but-là, là, qu'il va voir, qu'il demande à son fils je veux mourir, tu sais, il sait qu'il achève et tout. Il pourrait juste avoir une rencontre avec lui puis juste jaser, là, c'est ce qu'on fait, on va aller prendre un café puis, mais pas là, tu sais. Et là, et ça fonctionne comme un roman d'apprentissage, comme deux vies qui se sont rendues à des points où maintenant il faut que ça, surtout ils sont mêlés par le sang, mais qu'il va falloir qu'ils s'entrechoquent tout le long du voyage. Et Dieu sait que, bon, là, dans ces époques-là, c'est sûr que là, il n'y avait pas grand monde sur le chemin, ça fait que t'es pogné tout seul avec. Et là, quand t'arrives, tu startes puis tu bivouaques. Là, t'as pas le choix de jaser, ou tu sais, peut-être la première nuit tu jases pas, là, mais tu sais, à un moment donné, ouais, ça finit par
Si c'est pour durer 30 jours aussi, va bien falloir que tu te parles à
c'est
ma nuit,
ça. Ouais, c'est ça.
Mais moi, ce qui me surprenait le plus, t'en avais parlé, Raymond, tantôt, que ces personnages-là étaient tout en nuances. Effectivement, c'est absolument magnifique. Ce qui me surprenait le plus, c'est que, bon, tu sais, le père débarque de nulle part, il dit « Salut, accompagne-moi, je vais mourir, c'est 30 jours de cheval », ou quelque chose comme ça. Puis, merde, le fils accepte. Voyons donc, c'est comme « Envoie les chiens, là ». Puis, je pense que c'est la première affaire qu'il finit par faire. Mais le père va vraiment profiter de ce fils-là. C'est comme dans une espèce de télésérie américaine où est-ce qu'un parent débarque de nulle part parce qu'il a besoin d'une greffe de rein ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça, là. T'sais, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, puis ben, ça va être l'ado qui va s'y coller. Mais l'ado a quelque chose à y trouver aussi, là. C'est un petit peu... C'est pas tant l'occasion de faire la paix avec son père, mais c'est plus de découvrir la vérité sur l'histoire de sa famille à laquelle il n'a jamais eu accès. Donc, ouais, dans Les étoiles s'éteignent à l'aube, ben, l'essentiel du scénario tourne autour du fait que la fin de vie va permettre un dialogue qui serait impossible autrement.
Ben, en effet, mais tu vois, pour revenir un peu sur ce que tu disais justement, bon, par rapport au père, oui, il y a peut-être quelque chose de choquant dans la mesure où, bon, là, c'est ça, tu sais, débarque comme un cheveu sur la soupe, demande à son fils de l'accompagner et tout. Mais en même temps, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable. Je me demande dans quelle mesure c'est pas juste aussi le père qui, tu sais, qui veut constater ce que son fils est devenu parce qu'il sait qu'il l'a confié.
Ah, mais il y a de ça aussi, c'est ça.
Tu sais, il y a comme une prise de conscience. Tu sais, il sait qu'il l'a confié à quelqu'un qui va en prendre soin, qui va, tu sais, il y a vraiment l'espèce de constat de dire, tu sais, je veux dire, mon fils est devenu un homme, tu sais, puis il est capable de se débrouiller, puis il est capable de chevaucher, puis il est capable de prélever la bouffe, il est capable de faire probablement un paquet d'affaires que lui peut-être savait faire, qui se sont perdus justement dans le travail, puis dans l'alcool, puis dans l'abandon, puis dans un peu comme Marco disait aussi, que je pense qu'au bout du chemin, t'sais, oui, t'as l'apprentissage du fils qui a fait son bout, mais je pense que même s'il s'en va vers la mort, le père fait plus de chemin là, assurément, qu'il n'a jamais fait.
S'assurer là, qu'il y ait un héritage et que ça fonctionne.
Qu'il laisse quelque chose. Là,
ouais, t'sais. Parce que en fait, c'est pas le père qui débarque demander. Le père fait quérir le fils par « Oh, ton père te demande au village » ou un truc. Si ma mémoire est bonne, là,
oui.
C'est le père qui le demande. Et le fils... Il pourrait ne pas y aller, mais il y va quand même, là. C'est-à-dire que c'est ça. Et effectivement, c'est vraiment de vérifier si l'héritage est là, parce que lui, sachant que rendu au bout, puis tout ce que l'alcool a fait de lui, s'assurer que son héritage...
J'aurais tendance à dire peut-être aussi, faisons un pas de plus, puis si on se projette en disant, mais OK, il te reste 30 jours à vivre, que tu sais que tu as une date d'expiration qui est relativement concrète, ça doit être ben, évidemment quelque chose d'assez difficile à vivre, mais j'imagine que parmi les questions que tu te poses, c'est qu'est-ce que je laisse? Et évidemment, lui, avec sa guerre, il laisse visiblement pas grand-chose. Et donc, cet héritage-là, au bout du compte, c'est de voir aussi quelle relation, quel souvenir, quel savoir, quelle connaissance de l'histoire familiale qu'il laisse à son fils. Et il y a peut-être une notion de donner un peu cet héritage-là, de donner la possibilité de fermer le livre pour les deux, au bout du compte, pour le père aussi, et de lui laisser un autre souvenir que celui du père indigne, que celui du père alcoolique, que celui du père profiteur qui use un peu d'une certaine culpabilité pour obtenir de son fils des prêts d'argent, des services et autres éléments, et d'aller au-delà de ça, mais dans un contexte où le récit, évidemment, le 30 jours se fait pas facilement non plus, parce qu'il y a une notion d'apprivoisement, ils ont visiblement jamais passé autant de temps ensemble, ils ont visiblement une relation qui est très cassée, donc on voit tranquillement la relation se refaire, la confiance s'installer pour en arriver à la conclusion dont tu parlais tantôt, Edouard, où le fils accepte un peu, au bout du compte, ce que le père a vécu, sans nécessairement enlever le poids que l'absence de ce père-là lui a infligé non plus. Donc, encore là, une fin qui est en nuance de gris, un peu réaliste, au bout du compte, où je me dis, ben si quelque chose comme ça se passait, probablement que ça se passerait comme ça, avec cette volonté de laisser quelque chose un peu d'intangible, mais de laisser quelque chose de soi derrière aussi, que la vie n'ait pas été vaine, au bout du compte.
Ben, comme je disais un peu au départ, hein, c'est comme je disais, c'est toujours la fin par rapport au passé. Comme je disais, ici, le passé, dans le fond, on le révèle, tu sais, on l'ouvre enfin, on le vide, tu sais, à quelque part, on le libère. Et c'est un peu ce qui arrive dans la mort de Staline également, parce que avec la mort de Staline, c'est tout un passé qui se libère, c'est tout un avenir qui s'ouvre, et c'est tout un brouhaha qui s'engage. Et je pense que c'est intéressant justement d'avoir que Nuri, même s'il a appelé ça justement la mort de Staline, que le récit n'est pas la lente agonie ou les 30 derniers jours ou les deux dernières années du dictateur. Non, on commence avec une scène relativement courte mais grandiose avec l'orchestre qui doit réenregistrer tout sa symphonie, parce que là le petit père Staline a envie de l'écouter puis qu'il avait pas fait d'enregistrement. Et donc déjà juste avec ça, on saisit très bien le régime, tu sais, de peur puis de le poids que ce type-là exerce. Il meurt très très tôt, et là à partir de là, comme je disais, là tout s'ouvre, parce que là un moment donné ça déboule. Je veux dire, il y a des comptes qui vont se régler, il y a des dossiers montés sur des gens, il y a des gens qui étaient censés mourir qui mourront pas, et derrière tout ça, cet être humain absolument abominable et exécrable qui était Lavrentiy Beria, le chef de la police secrète de Staline, qui va littéralement essayer de s'emparer carrément du pouvoir de la ville à l'aide de ses hommes et tout, avec un paquet de promesses. J'ai trouvé ça absolument grandiose, et d'autant plus grandiose, je dirais, que c'est tellement un événement ubuesque, c'est tellement un événement comme exubérant, que aussi bien traité de manière très sérieuse et dramatique comme on le fait dans la BD, que traité de manière humoristique comme on le fait dans le film, dans l'adaptation, eh bien ça sert magnifiquement l'histoire dans les deux cas.
En fait, ce que le prologue exprime tout à fait le truc, le récit en fin de vie. En fait, dans le prologue, t'as le microcosme de la chose, c'est-à-dire que ce récit d'en fin de vie, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire, chaque fois que, Staline veut l'enregistrement, on fait pas l'enregistrement, tout le monde a peur de la mort. Les musiciens ont peur de pas faire la chose, ils vont mourir. Celui qui organise le concert a peur. Et quand arrive la mort de Staline, c'est le contraire, c'est la mort de la peur. Parce que les gens, ont encore peur de mourir, mais là devient la course au pouvoir, et ce n'est plus la priorité d'avoir peur de la mort. La priorité, c'est de prendre le pouvoir, ou de comment on peut organiser. Et là, tout ça s'estompe dans des espèces de manigances et de trucs. Même que Ben, Staline, il est pas mort tout de suite, là. Il y a ça qui est drôle aussi, là, dans le sens que, ouais, ok, puis là, il va chez les médecins, mais, et les médecins ont peur de mourir parce que s'ils font pas le. Bref.
Oui, ben en fait, c'est qu'on se rend compte, puis c'est tout le côté ubuesque. Je pense que le terme est hyper bien choisi, Edouard, pour décrire ça. Si tu le dis, en fait, au niveau, je veux dire, Staline, initialement, n'est pas mort, il est mourant, mais dans un contexte normal, il aurait pu être récupérable, peut-être, en fait. mais malheureusement, dans le fond, comme on a peur de mourir, comme on a peur de faire un impair, ben, on veut pas se faire d'ennemis, on veut pas se faire accuser, on veut pas ci, on veut pas ça. Et donc, finalement, ben, faut qu'il y ait un comité qui décide qu'est-ce qu'on fait. Après ça, une fois que le comité a décidé qu'est-ce qu'elle allait faire, puis que la décision a été prise de concert pour être certain que personne ne soit accusé d'avoir tué Staline, eh bien là, il faut trouver des médecins qui vont accepter confidentiellement de venir le soigner, de venir le vérifier, mais il faut s'assurer que ce ne soit pas des ennemis du régime qui répondent à certains critères. Et là, finalement, on se rend compte que les meilleurs médecins, ben, ils ont été envoyés au goulag, qui ne sont plus disponibles. Donc, les conséquences, si on peut dire, du règne un peu néronesque de Staline au bout du compte. Et finalement, ben, on finit par l'échapper. Ce dictateur, et ensuite c'est un peu de voir qui s'était préparé en amont aussi, donc de quelle manière on amène un peu ces choses-là, mais c'est un théâtre complètement absurde, et on se dit en lisant ça, mais mon Dieu, effectivement, ça doit être un portrait raisonnablement viable, la fin d'un dictateur, où au-delà du sentiment de « mon Dieu, il est mort », au-delà de la libération initiale de « mon Dieu, il est mort, c'est fini », mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'être emporté dans ce flot qui s'annonce? Et au fil du récit, dans le fond, autant le prologue est super important pour placer justement un peu de l'ambiance paranoïaque, et un peu la présence, j'ai l'impression aussi, des enfants de Staline à l'intérieur, oui, du récit, viennent nous rappeler aussi sporadiquement à quel point ce type-là est un monstre, et est un monstre même pour ses propres enfants, pour sa propre épouse, pour tout le monde, au bout du compte, qui était autour de lui. Et on se rappelle finalement de cette libération-là, mais aussi du poids que cette mort-là va laisser à la fois sur des individus, sur des proches, sur des gens qu'il ne connaissait pas, sur l'âme d'un pays, au bout du compte, qui, comme d'autres grands dictateurs, ben, ont détruit des générations, au bout du compte. Et à un moment donné, on voit les enfants de Staline qui nous rappellent, ben, dans le fond, des jeunesses brisées, des familles détruites par, justement, des règnes complètement incontrôlés, au final.
Mais on voit les deux enfants de Staline, on a Svetlana puis son fils Vassili. Puis juste pour rebondir sur ce que Marco disait tantôt qui était la fin de la peur, les deux enfants vont réagir de manière super différente. Svetlana a déjà eu un amoureux, on a une scène où est-ce que la police secrète débarque au petit matin, il embarque l'amoureux, on n'entend plus jamais parler, elle va confronter son père, elle va dire « Mais voyons, mais qu'est-ce que t'as fait? » Puis l'espèce de, tu sais, l'espèce de spectre de la mort qui peut survenir à n'importe quel moment, Svetlana, elle le comprend super bien, c'est la plus prudente des deux, elle va se promener un petit peu, elle espère être protégée par quiconque prendra le pouvoir, on sait pas trop, pour sauver sa vie, alors que Vassili, c'est pas ça du tout. Vassili porte l'espèce de costume de petit père de la nation, il va s'inviter, il va se mêler de tout, il va faire comme si c'était lui le patron dans la pièce. Lui n'a jamais eu peur de mourir, probablement, en tant que fils de Staline, puis va conserver cette attitude-là, même après le départ du dictateur. Bon, il va avoir une espèce de, il va avoir une espèce de regain de lucidité à la fin, mais ça vient pas tout de suite, puis c'est assez terrifiant.
Non, c'est vraiment des personnages, en fait, puis on a une galerie de personnages à introduire hyper rapidement. Et je veux dire, tu parlais de Nuri puis Thierry Robin aussi côté dessin. Je veux dire, la chorégraphie de tout ça, c'est hallucinant comme BD. Là, ça faisait un bout que je l'avais pas lu. Et on dirait que le temps de se rappeler à quel point justement c'est ficelé parfaitement là, comme récit. Là.
C'est encore une fois apporté, je pense, au crédit de justement de Nuri qui est un conteur né, je veux dire, un conteur dans l'âme, et on le voit extrêmement bien là-dedans. On voit, tu sais, qu'un gars comme Staline, je veux dire, oui, là, mais tu sais, on n'en finit plus de le tuer, là. On n'en finit plus de le tuer, et ça a pris des décennies avant de tuer Staline, parce que ça laisse une marque, parce que ça laisse quelque chose. Et, je veux dire, à quelque part, c'est le mythe, tu sais, de Staline qu'il faut tuer. Et parlant de mythe, hein?
Toujours des liens. En fait, je pense que la moitié du plaisir de proposer des BD et de faire les clubs, c'est de voir comment Edouard va faire les liens et va décrire l'album.
Les transitions, oui.
Et parlant de mythes, oui, parlons Sadman, parlons dette, en fait. Parce que, moi, j'avoue, encore une fois, très candidement, ça là, je suis bien candide à soi. j'ai lu ça et ce qui m'a frappé tout de suite, j'ai eu l'impression d'être dans une vieille fable de l'Antiquité. Gréco-romaine, mais vraiment, pas juste, bon, on sait que Gaiman, hein, c'est son genre de thématique, mais on a vraiment les éléments, je veux dire, la sorcière, la mort, je veux dire, personnifiée en plus.
Puis l'ermite.
L'ermite, le héros maudit qui se fait sauver parce que écoute on est à l'époque de Gilgamesh, bon sang là, on est tu sais dans la quête de l'immortalité, on est dans la, c'est la première chose qui m'a vraiment saisi dans tout ça, au-delà bien sûr du tu sais du récit, du ton, mais je connaissais déjà évidemment Sandman, un peu l'univers et tout, donc j'y retrouve bien sûr tout le génie de Neil Gaiman, mais vraiment moi ça a été ça, c'est une fable ce truc là.
Et on pourrait s'attendre à quelque chose de pesant et tout. Non, c'est quelque chose de positif parce que d'abord, il y a cet ado qui n'est pas dépressif, qui est juste conscient de l'époque à laquelle il vit, de sa situation, mais il n'a pas le goût de vivre. Tu sais, c'est pas quelque chose comme, tu sais, tout ce qui m'est arrivé. Non, non, lui, il ne voit pas l'utilité de vivre. Donc, d'où le en finir. D'où le finir dans le dépotoir, et là, un accident arrive, il reçoit un frigo sur lui, et là, Dead apparaît, la mort apparaît, et elle va vivre une journée. Elle va pouvoir vivre une journée, goûter à la vie, et l'adolescent va l'accompagner dans cette espèce de quête, parce que comme tu dis, c'est un mythe, puis c'est aussi, ça fonctionne comme des quêtes, où là, Dead, sa quête de vivre, lui va l'accompagner, mais il va arriver un paquet d'affaires, rencontrer la sorcière, je me rappelle plus de son nom, Maggie...
Mad Etty.
Et là, il va arriver toutes sortes de choses. Et là, ce au prix de la vie, ce que ça coûte pour vivre, et Dieu sait que elle, ça ne coûte rien, parce que, bizarrement, l'ado l'accompagne, mais chaque fois que Didi, pour les intimes, Dead, Didi décide de s'acheter un hot dog... c'est gratuit, elle va manger ailleurs, c'est gratuit, elle rentre dans un club, c'est gratuit, bref, ce haut prix de la vie n'est et payé n'est, l'argent n'a pas de n'est est pas le truc qui importe dans la vie, déjà là c'est subtil, mais et c'est ça, et tout du reste, cet ado là jusqu'à la fin n'y croit pas là. Parce qu'elle lui dit, je suis la vie. Parce que, en fait, la mort, Didi, a pris le corps. Pour nous, elle reste l'ado gothique, d'apparence gothique et tout, cet ado-là, le personnage qu'on connaît. Mais elle a pris le corps d'une jeune fille qui a perdu ses parents et qui est condamnée. C'est pour ça qu'à la fin, elle va mourir. Parce que le corps de la jeune fille qu'elle a pris va décéder.
Et tout ça à travers, j'aimais bien ce qu'amenait Edouard, dans le fond, l'idée du mythe, l'idée de la fable aussi. Et pour moi, l'idée de la réinvention de l'icône qu'est la mort, parce que ça reste quand même osé. La mort, c'est quand même archétypal, en fait, que ce soit la figure des charrons, des, et autres, dans le fond, la faucheuse. Ouais. Je veux dire, tu sais, quand même quelque chose autour duquel il y a beaucoup d'imagerie et populaire. Qui est très présente, et avec Death, Neil Gaiman a, en respectant quand même un peu les poncifs ou certains attendus, donc le côté gothique, le ton, la couleur, le côté noir et blanc de ce personnage-là dans un monde coloré qui détonne quand même radicalement aussi, mais qui amène quand même la figure de la mort ailleurs, un peu comme il a fait dans Sandman au bout du compte, où il s'amuse à réinventer un peu certaines figures comme ça, mais reste que, justement, faut bien balancer les choses pour que ce pari-là fonctionne, et il nous arrive, et je pense que ça montre bien aussi, bon, le potentiel que ce personnage-là, de dire, OK, on est capable d'amener d'un touriste dans une série vers un récit longue forme qui marche, qui a une richesse, qui nous amène à quelque part et qui développe, enrichit, bonifie cette contre-figure, dans le fond, qui est la mort du côté de Gaiman. Et après ça, ben, qui l'a amené peut-être aussi à devenir un archétype, où je veux dire, dans l'adaptation Netflix, par exemple, on se demandait comment on allait nous proposer. Il y avait une attendue parce qu'on avait réussi à établir un nouvel à côté comparativement à La Faucheuse aussi.
L'adaptation d'ailleurs qui a fait controverse parce que la mort d'Ed dans la série télé est une jeune femme noire. Et pour ben des fans, ça a pas été, c'était, ça devait pas être ça, mais ce qu'expliquait. Et puis effectivement, on le comprend parce que, fait à cette époque-là, Dead, quand Sandman a été créé, Dead représentait ce qui se faisait au niveau populaire, ou imagerie populaire, je dirais. Mm. C'était normal que Dead soit une jeune ado blanche gothique. Mais dans la série télé, qui est tout à fait moderne, l'aspect comme Dead avec cette jeune femme noire...
Elle aurait détonné.
Pour avoir écouté la série, moi, je vois pas le problème de ça. Parce que, tu sais, comme Gaiman disait, si tu penses que la mort ressemble à ça et que c'est figé dans le temps, t'as pas catché qu'est-ce qu'était la mort.
Ben, t'as pas compris qu'est-ce qu'était la mort. Et d'autant plus que, moi, j'ai l'impression que, je veux dire, cette apparence-là, c'est comme l'encre qu'elle porte autour du cou, le symbole des Égyptiens. Je veux dire, c'est de la poudre aux yeux.
Voilà.
Elle se moque, elle s'en fout. C'est pour montrer que tous ces symboles de pouvoir-là, pis ces préconçus-là, ont pas rapport. Et j'irais même plus loin pendant qu'Émilie me regarde de travers, parce que je suis sûr qu'elle veut dire quelque chose. Mais, je veux dire, la mort, comme j'ai l'impression que l'aperçoit Gaiman, et comme j'ai l'impression qu'on devrait un moment donné finir par l'apercevoir, je veux dire, la seule vérité indiscutable, la seule chose qu'on peut être sûr et certain dans une vie humaine, c'est qu'on va mourir.
Ben oui.
C'est la seule vraie chose auquel on peut se rattacher, le seul, oserais-je dire, espoir, ou bon, la seule vérité qu'on a. Et je pense que c'est ça que Gaiman essaye de rappeler là-dedans, de dire pourquoi en avoir peur, pourquoi ça faudrait que ça soit une faucheuse, puis un, tu sais,
voilà,
pas nécessairement.
Quand il y a une petite histoire qui est dans Sandman, la série Sandman, où Morpheus est dépressif un peu parce que là il vient de se venger, il a réussi à ramener ses objets et tout, puis là il accompagne Dead dans sa récolte. Et c'est ça. Et là tout en discutant avec lui, en me disant, mais là, t'as fait ce qu'il fallait. Et là, elle s'arrête et elle va voir un vieux monsieur qui. Et le vieux monsieur la regarde. Ah oui, mais c'est mon tour. Et oui. Puis tout se fait avec une sérénité, comme une acceptation de ce qu'est la mort.
D'un processus naturel.
Oui.
Là, c'est à mon tour. Là.
Oui, vas-y.
Là, c'est à mon tour. Oui, puis en fait, moi, ce qui m'avait surtout marqué dans cette bande dessinée-là, parce que, bon, vous en avez très bien parlé, c'est que la quête dans cette bande dessinée-là progresse jamais en ligne droite. Donc, l'ado qui veut en finir avec la vie qu'on trouve au début, tu sais, je me dis, ah ouais, ok, non, là, on va passer la bande dessinée à essayer de lui faire changer d'avis ou n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Ensuite, il y a l'espèce de vieille qui débarque, qui dit, ah oui, toi, ça fait des années que je te cherche, va falloir que tu trouves mon cœur, je l'ai caché. Ok, d'accord. Puis on fait pas ça du tout, on s'en va dans un club. Puis après, ben, ils se font kidnapper. Puis ça progresse jamais en ligne droite. C'était comme j'avais l'impression qu'on tirait le tapis sous mes pieds constamment. Puis on tombait toujours dans d'autres choses. Puis malgré tout, tout ça finit par trouver une résolution à la fin, mais jamais de la manière dont on le pense, comme les œuvres de Gaiman en général, qui se débrouillent super bien.
C'est l'art du conteur. Hein?
Alors, c'était le mot de la fin, donc d'Émilie Roy-Brière. Je rappelle, en fait, les titres qu'on a jasés cette semaine. Alors, Les étoiles s'éteignent à l'aube de Vincent Turan, d'après Richard Wagamizi, c'est chez Sarbacane. Dette de Neil Gaiman chez DC Comics. Jordi et la fèbre, malgré tout, chez Dargo. Et La mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, également chez Dargo. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Émilie Roy-Brière, merci à vous trois.
Bonsoir.
Un plaisir.
Bye.
Et prochain club de lecture le 20 janvier prochain. De notre côté, on prend une pause pour les fêtes et on sera de retour en début d'année, entre autres avec les classiques palmarès, revues de l'année et le reste, puisqu'il faut bien les faire. Alors, ben, d'ici là, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se dit à très bientôt.